Total Energy, toujours avec vous. Avec vous pour encourager nos coureurs sur les plus grandes courses. Et avec vous pour vous aider à maîtriser votre consommation d'électricité. Total Energy, de l'électricité et des services innovants pour prendre la main sur votre consommation. Voir conditions sur totalenergy.fr.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 18h.
Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle étape du Tour de France, la sixième de cette grande boucle, avec un petit passage en Belgique aujourd'hui, puisque le peloton s'était lancé de Binche tout à l'heure, en direction du sud, en direction de la Lorraine, 60 km en Belgique, et puis on a déjà repassé la frontière, puisque le peloton se trouve désormais dans le territoire français. C'est un petit passage, évidemment, c'est un pays important que la Belgique en matière de Tour de France. Sixième étape, je vous le disais, au lendemain de cette terrible étape sur les pavés de Paris-Roubaix qui a livré quelques premières vérités sur ce Tour de France. On y reviendra évidemment tout à l'heure. Des vérités, celles d'hier et celles d'aujourd'hui se ressemblent parce qu'on a une nouvelle fois un maillot jaune en tête. Wout Van Aert qui a fait éclater le peloton et qui l'a mis à rude épreuve depuis le départ de cette étape. Wout Van Aert qui n'arrête plus d'attaquer. On se demande comment il fait pour avoir de telles jambes. Et il est donc en tête en compagnie de deux autres coureurs. On va faire le point dans un instant. Auparavant, on va quand même dire bonjour à toute la bande, à commencer par Cyril, notre druide. Bonjour Cyril.
Oui, bonjour, bonjour Christophe, bonjour Jérôme, bonjour Pierre-Yves, bonjour à tous.
Eh ben, il est là, il est en pleine forme notre druide, il dort bien le soir, il fait un peu... Il chante à table et puis ensuite il va se coucher.
Il chantait du Gilbert Montagnier.
Il était magnifique. je ne vais pas tout dire. Jérôme Coppel, également avec nous. Comment ça va mon GG, en pleine forme?
Ça va très bien, salut à tous, oui, pleine forme, comme toujours. Et on a une très belle étape pour le moment. Ah, on a hâte de voir la suite.
On se régale pour le moment, c'est le cas de le dire. Pierre-Yves Leroux, bonjour mon pilou.
Salut Christophe. C'est vrai que c'est sympa. Ouais, c'est sympa là. On sent que le tour a commencé. Ça fait déjà c'est la troisième journée maintenant de véritable course. Mais là, c'est vrai que ça a été un début d'étape exceptionnel.
Et on va y revenir dans un instant. Et puis on va saluer également Arnaud et Marco qui sont sur la moto RMC. Salut les garçons.
Salut les amis, salut à toutes et à tous. Et oui, début d'étape exceptionnelle, très rapide, 52,5 de moyenne dans la première heure. On se serait bien arrêté avec Marco boire une chimée aux alentours du kilomètre 55, mais franchement, on n'a pas eu le temps tellement ça roule vite. 19 degrés sur la route et beaucoup beaucoup de vent aussi, alors un petit peu moins maintenant, mais en tout cas sur les premières dizaines de kilomètres, il y avait vraiment beaucoup de vent dans cette étape.
Et oui, parce que là le vent est masqué sans doute par les arbres. Nous sommes dans les Ardennes ou pas loin dans cette étape qui conduit donc le peloton vers long, oui. Arnaud le disait, une course de folie depuis le départ de cette étape. On est pour l'instant à des moyennes, on devrait arriver quoi? L'arrivée était programmée de 17h15 et 17h45, ça risque d'arriver avant 17h.
On est plus proche de 17h là maintenant, effectivement. On va voir comment ça va se passer désormais, mais le peloton essaye de maintenir un écart. On vous donnera toutes les explications dans un instant sur ce qui se passe vraiment, mais ça continue effectivement à rouler, à bien rouler. Il reste 127 km à parcourir, c'est-à-dire que c'est moins de 3 heures. Donc effectivement, peut-être que ça sera avant la barre des 17 heures.
Bon, alors on a bien mis l'eau à la bouche à tout le monde. Maintenant, on va vous raconter ce qui se passe. C'est le premier top course de la journée dans l'Intégral Tour.
Un véritable feu d'artifice dès le départ aujourd'hui de cette étape, la sixième depuis le début du tour. Départ de Binche en Belgique dans la province de Hainaut. Et dès le début, eh bien, on a vu des coureurs essayer de tout faire péter, notamment un certain Wout Van Aert qui a fait du ménage. Il y a une échappée qui s'est créée, on s'est dit, ah celle-là c'est la bonne. Ils se sont dit, tiens, je vais vous les citer parce qu'il y avait vraiment du beau monde. Il y avait Christophe Laporte, il y avait Stan De Wulf, il y avait Vegard Lungen de l'équipe de Pogacar, il y avait Kasper Asgreen, donc beau rouleur, Simon Geschke également, il y avait Andreas Leknesund, Magnus Kort Nielsen évidemment, Jorge Zimmermann d'Intermarché ou Antigroup Gobert, Mats Pedersen le champion du monde 2019, Connor Swift et un certain Franck Bonamour qui a réussi à recoller à cet échappé. On s'est dit chapeau Bonamour parce que là il a fait le jump alors que ça roulait, ça ferraillait derrière et finalement et bien au bout de quelques minutes tout le peloton est revenu et ça a à nouveau redémarrer de chaque côté, à gauche, à droite, pour essayer de prendre la bonne échappée. Finalement, la bonne échappée, elle s'est formée il y a quelques minutes avec trois hommes. Wood Van Aert, le maillot jaune, est devant, en compagnie de Quinn Simmons, l'Américain, et du Suisse Jakob Fuglsang. Donc du beau monde devant, ils sont trois. Ils ont plus de deux minutes d'avance sur le peloton, alors que ce peloton est en train de s'arrêter. Il y a même 3,20 maintenant pour le groupe Pogacar, le peloton, puisque ce groupe est en train de s'arrêter pour un petit besoin naturel. Il y a des hommes qui sont lâchés tellement ça a roulé vite devant et qui sont déjà à 5 minutes derrière les trois hommes de tête. Des hommes qui sont souvent blessés, qui ont chuté. On pense à Turgis, par exemple, Gianni Moscone également est dans ce groupe à l'arrière, Kirsch également, et puis Valscheid, Burgodo, Georges Bennett. Mathieu Van Der Poel n'est pas très bien non plus. Il est quand même à hauteur du peloton, mais 30 secondes derrière le peloton dans les voitures actuellement. Un petit Mathieu Van Der Poel sur cette édition du Tour de France.
Voilà, comme depuis le début de cette grande boucle, Mathieu Van Der Poel n'y est pas. On l'attendait beaucoup hier sur l'étape des pavés, qui était vraiment à sa convenance. Et malheureusement pour lui, eh bien, il n'a pas les jambes. Il ne comprend pas pourquoi il n'a pas les jambes. Alors nous, on a aussi du mal à comprendre ce que fait Wood Van Aert dans cette histoire et ce que font aussi ses compagnons d'échappée. Parce que quand on est avec Van Aert, on sait qu'on a peu de chance finalement, Jérôme, d'aller chercher une victoire d'étape. Or, eh bien, Fuglsang et Simons ont décidé quand même de partir avec Van Aert en espérant quoi?
Bonne question. Alors pour un coureur
deuxième,
comme...
troisième.
Pour un coureur comme Fuglsang, on ne sait jamais s'il vise vraiment le classement général. Donc est-ce qu'il vise une remontée, lui par exemple, aidé par Van Aert et Quinn Simons? Après, c'est quand même c'est l'étape la plus longue de ce Tour de France. C'est quand même une sacrée aventure à trois comme ça. Et comme on le disait avant de prendre l'antenne avec Cyril, quand on part dans une échappée, c'est quand même pour gagner l'étape. Or, avec Wout Van Aert, ça paraît toujours un peu compliqué à faire. Est-ce qu'ils vont pas laisser trop de cartouches? Moi, je me pose vraiment des questions sur la tactique de Wout Van Aert et de la Jumbo Visma. Surtout, est-ce qu'il veut aller au sprint intermédiaire? Est-ce qu'il veut faire travailler l'équipe à Pogacar en mettant le maillot jaune directement à l'avant? L'équipe Jumbo-Visma derrière dit ok, nous on roule pas du tout, parce qu'au pire si l'échappée arrive et se dispute la victoire, Van Aert augmentera son avance. Du coup c'est bien l'équipe à Pogacar qui va être obligée de rouler derrière. S'ils avaient mis un Christophe Laporte par exemple devant, ou n'importe quel autre, l'équipe à Pogacar aurait pu dire mais débrouillez-vous, il a qu'à prendre le maillot, on s'en fiche. Là finalement ils sont obligés de rouler maintenant l'équipe à Pogacar pour limiter un minimum les écarts, même si...
Pourquoi Van Aert peut leur faire peur pour le classement général?
Faut peut-être pas lui laisser avec... Alors moi, j'y crois pas du tout, mais faut peut-être quand même pas le laisser avec 5-6 minutes d'avance à l'entrée des massifs montagneux, parce qu'on sait jamais avec un coureur comme lui. Depuis le début du tour, il est là tous les jours. Hier, c'est encore lui qui sauve le tour de toute son équipe et d'un paquet de favoris. Moi, je m'amuserais pas à lui laisser 6-7 minutes d'avance si j'étais l'équipe à Pogacar.
Cyril, est-ce que tu es d'accord avec ce que vient de nous dire Jérôme? C'est un bon coup tactique réalisé par la Jumbo de mettre le maillot jaune comme ça à l'avant seul avec deux hommes?
Alors c'est un bon coup tactique, mais pour faire ce coup tactique il faut avoir un super coureur, et Wout Van Aert effectivement sur ce qu'il a montré hier, enfin ce qu'il montre depuis le départ d'ailleurs, mais déjà hier, aujourd'hui à plusieurs reprises il a essayé de faire éclater le peloton, et finalement sur une de ses dernières attaques le peloton en a eu marre entre guillemets, ça s'est relevé, tout le monde avait besoin de souffler. Ils se sont retrouvés à trois devant, une bonne échappée à trois avec des coureurs de valeur. Le problème, c'est qu'il a emmené aussi Fuglsang. S'il avait été tout seul, je pense qu'il pouvait nous faire un truc à la Hugo Coblet, qu'on aille le chercher qu'après l'arrivée. Bon, il est évident qu'ils ont 3 minutes 28 maintenant. Le peloton maintenant a commencé à rouloter sous la direction des équipiers de Pogacar, mais c'est vraiment un faux train, il n'y a pas le feu, il y a 123 km, on accélérera au moment où il faut accélérer, on sait que le final est très difficile, et puis dans la mesure où il y a Wout Van Aert, mais surtout Fuglsang, je pense qu'il y a d'autres équipes qui vont venir rouler à un moment ou à un autre avec les UAE.
Ok, alors les UAE qui ne sont pas au complet, hein. Les UAE, c'est évidemment l'équipe de Tadej Pogacar. Tadej Pogacar qui est là à l'arrière du peloton, mais pas de souci pour lui. Parce que, une nouvelle fois, comme hier, Pierre-Yves, eh bien, certains des équipiers du maillot blanc ont eu du mal, et notamment des garçons qu'on attend dans la montagne à partir de demain.
Bah, des garçons qu'on attend pour aider Pogacar au plus près, mais qui sont toujours à la rue, hein, depuis le début de ce tour. C'est George Bennett et Mark Hirschi aujourd'hui, mais on en a vu d'autres qui n'étaient pas très bien ces derniers jours, à l'image de Maika et Bjerg. Là, ils sont un peu mieux aujourd'hui, mais Bennett et Hirschi, eux, sont déjà à 5 minutes derrière les échappés, donc à 2 minutes derrière le peloton.
Oui, malgré tout, Pogacar, là, aujourd'hui, a ses équipiers autour de lui, quand même, pour rouler sur Van Aert, hein, Jérôme.
Là, il avait deux équipiers assez costauds. On a vu depuis le départ de l'étape. Vegard Stecklangen a pris le premier coup avec Laporte et Bonamour, notamment. Il avait Soler, qui était pas mal aussi. Donc, il avait quand même deux équipiers pour essayer, tant bien que mal, de filtrer un peu les coureurs qui voulaient prendre l'échappée du jour. C'est quand même un peu light pour aujourd'hui, ça devrait passer. En plus, ils devraient trouver des alliés de circonstance si vraiment l'écart venait à grandir. Je pense à Ineos notamment. Pour aujourd'hui, c'est bon. À partir de demain, ça va être un peu plus compliqué. Surtout que, enfin, moi, je sais pas vraiment comment ils ont construit leur équipe, mais ok, Hirschi devait pas être là. Normalement, ça devait être Trentin, positif au Covid. Ils ont rappelé Hirschi. Mais Bennett,
Hirschi était pas prêt pour le tour. Ça se voit.
Et Bennett, il est pas prêt depuis le début de l'année. Donc moi, je suis un peu surpris de voir un coureur comme ça aligné dans une équipe
recruté
cette année, hein. Voilà, un ancien de Jumbo Visma. Moi, je ne l'ai pas vu marcher depuis le début de l'année encore. Quand tu construis une équipe pour gagner le Tour de France, ça me paraît compliqué de mettre un coureur comme ça hors de forme depuis le début de la saison. À voir s'il va monter en puissance, mais en tout cas, aujourd'hui, il ne nous en donne pas l'impression.
Oui, Cyril, c'est vrai que cette équipe est bizarrement construite. On pensait, avant le départ du Tour, et on en parlait ici même, que l'équipe UAE était quasiment, enfin peut-être pas, mais pas très loin du niveau de la formation Jumbo. Or, depuis le début de ce tour, il y en a un qui évidemment est magique, c'est Pogacar, mais les autres sont vraiment pas au niveau de leur leader, hein.
C'est évident, donc on peut toujours se tromper, hein. Qu'est-ce qui s'est passé pour faire en sorte qu'on se retrouve dans cette situation, d'autant que dans les équipes on n'est jamais seul véritablement à prendre les décisions, on va les prendre après un certain nombre de concertations, d'analyses, d'études, y compris avec les coureurs. Donc arriver avec une équipe où sur la montée du cap Blanet, il y en a quand même quatre qui ont sauté, donc c'était pas anodin. Donc aujourd'hui ils ont une équipe qui est très diminuée. Alors, savoir que Hirschi, qui marchait très bien autour de Suisse, a été arrêté pour le Covid également. Mm-hmm. Lorsqu'il lui faut pas un certain temps pour retrouver aussi un petit peu d'énergie. Mais pour l'instant, eh bien, l'équipe UAE a trouvé des alliés de circonstance. Et ces alliés de circonstance, ce sont tout simplement les équipiers d'un sprinter.
Ah, de quel sprinter?
Ah, Philipsen.
Et qui ont pris la barre.
Donc la formation Alpecin, hein, l'équipe de Van Der Poel.
Voilà.
Ils ont quand même une grosse confiance, hein, parce que les derniers kilomètres de l'étape sont vraiment vallonnés avec cette bosse juste avant la bosse d'arrivée à 12% de moyenne par rapport au... Arnaud Démare avait fait 5e ou 6e, hein, lors de cette dernière arrivée. Peter Sagan a gagné, mais Philipsen, j'ai du mal à me dire qu'il va réussir à lancer son sprint et passer ce petit coup de cul.
D'un autre côté, Philipsen, il regarde pas toujours. Il a peut-être pas regardé la carte comme il n'avait pas regardé l'autre jour que Van Aert était devant. Hein.
Oh, vous êtes mauvaise langue là, vous êtes mauvaise langue.
Après, pour revenir sur notre débat, regardez la composition générale de la team UAE. Qui vous mettez dans cette équipe? Ben, à part Ulissi et Formolo, je ne sais pas où sont les renforts potentiels dans l'équipe du Tour autour de Pogacar. Hein. C'est pas non plus une équipe.
Il n'y a pas pléthore comme dans l'équipe Jumbo où là il y a évidemment trop de coureurs ou presque trop de coureurs.
Ou la Quick Step,
où on peut
se passer du champion du monde.
Ouais. Alors, il y a aussi la surprise de voir Van Aert dans le coup. On a compris qu'il avait encore de l'appétit, le garçon. Hier, il s'était transformé en équipier de luxe. Il a réussi tout de même à conserver son maillot jaune, mais au prix d'un effort incroyable. Il a roulé et a repris du temps sur Pogacar. Avant-hier, on rappelle son numéro incroyable, ses 11 derniers kilomètres et la victoire qu'il va chercher. Aujourd'hui, il est encore là. Mais où va-t-il chercher toutes ses forces, Cyril? C'est quand même incroyable, un peu à l'image de Kort Nielsen, mais c'est encore un niveau ou deux ou trois niveaux au-dessus.
Oui, heureusement. Non, mais il est à son niveau, il est à son meilleur niveau, au niveau qu'il était l'an dernier sur le Tour, au niveau où il était il y a deux ans sur le Tour, même je pense un peu supérieur, beaucoup plus de maturité et d'expérience actuellement. Mais ça, c'est tout à fait logique. Son tendon d'Achille, c'est quand même le collectif. Alors il va être obligé de s'appuyer sur d'autres collectifs pour arriver à maîtriser la course. Mais d'un autre côté, Van Aert devant, si Van Aert il arrive avec une minute trente d'avance, c'est pas trop grave pour Pogacar. Mais ça obligera Jumbo aussi à contrôler la course par rapport à un maillot jaune qui pourrait se retrouver avec deux minutes d'avance.
Allez, 117 km de l'arrivée, justement, il y en a un qui est complètement amoureux de Wout Van Aert, c'est Marc Madio, rencontré hier par nos reporters. Vous allez l'entendre, le manager de la formation Groupama FDJ, qui ne tarit pas d'éloges sur la personnalité et sur le talent, la classe de Wout Van Aert. Marc Madio.
Il n'est pas dans mon équipe, mais c'est un coureur magnifique, Van Aert, magnifique. Il a tout en lui et il sait encore être l'équipier et il sait donner jusqu'à la dernière goutte d'énergie dans la poursuite. Là, on l'a encore vu tout à l'heure. Moi, chapeau, je vais pas dire que c'est mon coureur préféré, mais moi, j'ai une admiration profonde pour ce mec-là. Voilà. Je pense que c'est un coureur qui a en lui ce qu'est le cyclisme dans sa totalité. Et il a, je pense, cette éducation cycliste qui fait de lui un coureur à part. Voilà. Moi, je le ressens comme ça. Je connais pas plus que ça. Je le croise de temps en temps quand il remonte dans la file des voitures, il dit bonjour, on parle un peu de cyclocross, si c'est que j'aime bien et puis que lui c'est quand même son art. Mais immense coureur. De temps en temps on voit des critiques, Van Aert, bof, c'est monstrueux, magnifique. Puis sur tous les terrains, il lâche rien, et exemplaire.
RMC
Intégral Tour.
Ça c'est de la déclaration d'amour, Cyril. Hein
Non, mais
ou alors toi tu penses qu'il il passe aussi quelques petits messages là dans cette déclaration.
Marc Madio, où il est carrément langue de bois ou quand il parle comme il parle là, il y a quand même un certain nombre de messages qui passent. Donc si on retrouve Van Aert l'année prochaine à Groupama FDJ,
Tu crois que c'est ce message-là qu'il faut lire ou un autre?
Mais il y en a peut-être d'autres, oui.
Il veut pas le dire.
Il veut pas décrypter.
Il veut pas dire décrypter. Bon,
on va décrypter.
Oui.
Non, mais s'il trouve que les coureurs des autres équipes sont formidables, c'est peut-être qu'il est un peu déçu par les siens.
Oh bah, écoutez, mais vous avez le droit d'avoir les avis, les opinions.
Les interprétations qu'on veut.
Bah, il vaudrait mieux pas avoir d'interprétation.
Bon, malgré tout, ces coureurs ont bien réussi l'étape d'hier avec David Gaudu, on le rappelle, qui est dans le temps des meilleurs et qui n'a pas perdu de temps, bien au contraire. Il est d'ailleurs le deuxième Français classé au général.
Mais grâce au Jumbo, selon Cyril, c'est ce qu'il nous a dit hier.
Ah, en partie, parce que quand effectivement Van Aert a ramené Vingegaard, c'est rentré beaucoup plus vite sur le groupe Pogacar. Steuven, 14h19 sur RMC, un petit détour par la moto, voir ce qui se passe. Il fait pas grand beau quand même aujourd'hui. Les températures sont très agréables. Il y a eu quelques petites gouttes de pluie tout à l'heure, Arnaud.
Très agréable, c'est pas forcément ce que j'aurais dit quand on est sur la moto, parce que il fait froid. On a même été obligé de mettre le coupe-vent. Il faisait 17-18 degrés tout à l'heure. Ça commence à augmenter légèrement. Et puis le soleil qui également pointe le bout de son nez sur la route du Tour. Juste pour vous dire qu'il y avait quand même énormément de monde ce matin en Belgique au départ à Binche qui a accueilli le départ d'une étape du Tour pour la deuxième fois de son histoire. La dernière fois c'était lors d'une étape Binche-Épernay qu'avait remporté d'ailleurs Julien Alaphilippe. Et puis Binche, ville de vélo, qui accueille aussi régulièrement l'épreuve de la flèche wallonne qui se termine au mur de Huy. Et les Belges, évidemment, n'en avaient que pour Wout Van Aert ce matin, même si nous étions en Wallonie et que lui c'est un flamand. Et bien il n'y en avait que pour Wout Van Aert ce matin. Et pour conclure quand même sur ce que vous disiez à propos de Wout Van Aert, 25 jours de course depuis le début de l'année, à 18 reprises il a terminé dans les 3 premiers. C'est quand même absolument énorme.
Il est tout simplement incroyable. Wout Van Aert, donc, dans le groupe de 3. On fait un nouveau top course avant de s'interrompre quelques instants. Sur le bord de la route, le top course.
114 km à parcourir sur cette étape qui emmène les coureurs de Pinche en Belgique jusqu'à Longwy. Trois hommes en tête, trois hommes dont le maillot jaune, Wout Van Aert, qui continue à étinceler ce Tour de France, à faire la lumière sur le Tour de France. Il est en compagnie de Quinn Simmons et Jakob Fuglsang avec 4 minutes d'avance sur le peloton, le groupe Pogacar, et 5 minutes 27 sur un groupe d'attardés de coureurs un peu blessés, en difficulté. Ils sont une petite dizaine à souffrir à l'arrière, alors que le peloton est à hauteur de Charleville-Mézières. Et à Charleville-Mézières, il y a une petite subtilité. Si on va au plus vieux cimetière, il y a encore une boîte aux lettres sur la porte, car il y a un personnage qui reçoit toujours du courrier depuis 120 ans maintenant. C'est Arthur Rimbaud. Voilà, il y a toujours du courrier pour Arthur Rimbaud qui arrive régulièrement, puisqu'il est enterré à Charleville.
Arthur Rimbaud, le poète français, évidemment. C'est pas Paul Verlaine qui lui envoie des messages.
Ah non.
Non. Allez, 14h21, on revient dans un instant sur la route du Tour de France pour cette sixième étape. Nous sommes dans les Ardennes, en direction de la Lorraine et de Longwy, où sera donc jugé tout à l'heure l'arrivée de cette étape. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
14h24, vous êtes sur RMC, c'est l'Intégral Tour. Nous sommes ensemble jusqu'au 24 juillet, vous le savez, vous qui êtes de fidèles auditeurs, de fidèles amoureux du Tour de France. Et il faut dire que ce Tour de France, eh bien, a pris de l'ampleur depuis hier, cette étape sur les pavés qui nous a régalé, qui a aussi fait pas mal de dégâts. On va y revenir dans un instant. Mais aujourd'hui, eh bien, une nouvelle fois, on a une belle course avec une première heure où ça a flingué de tous les côtés qui a permis à trois hommes donc de s'échapper. Pierre-Yves, on refait un petit point, le point de la course, ça s'appelle le top course, c'est comme ça qu'on l'a fait.
Qu'est-ce que c'est original ?
Ah ben oui, très original. On a brainstormé, ah ben là, oui.
De nombreuses réunions, ah oui, pour arriver à ce résultat.
On a déposé aussi le nom.
Ah,
oui,
non. Ah, c'est incroyable, incroyable. Jakob Fuglsang, accompagné de Quinn Simmons et de l'incroyable Wout Van Aert, maillot jaune, sont échappés sur cette étape. 4 minutes d'avance sur le peloton pour les trois hommes à 111 km de l'arrivée. Et 5 minutes 33 d'avance sur un petit groupe d'attardés, de blessés, de garçons fatigués après l'étape des pavés, notamment Wout Van Aert, donc Quinn Simmons et Fuglsang, qui gèrent maintenant leur avance sur le peloton pour aller s'imposer si possible tout à l'heure lors de l'arrivée ici à Longwy. Une arrivée compliquée, hein, on le rappelle, avec deux côtes difficiles sur les 15 derniers kilomètres, la côte de Montigny-sur-Chiers et la côte de Pulventeux.
Et pendant ce temps-là, Arnaud va pouvoir enlever des épaisseurs, parce que le soleil est revenu sur la route du Tour, Arnaud. Tout va bien, il fait beau, il fait chaud.
Hein. Oui, le soleil.
Il s'avance d'ailleurs sur des grosses températures dans les jours qui viennent.
Viens sur la moto, tu verras s'il fait chaud aujourd'hui.
Tu dois plus voir, Arnaud, tu dois plus voir Wout Van Aert à l'instant dans cette échappée.
Alors là, oui, je sais pas ce qui s'est passé.
Eh bien,
là,
il change de vélo. Il change de vélo, en fait.
Ouais. Change de vélo, carrément. Change de vélo, effectivement, ouais. On a... Bah, je te laisse parce que j'ai pas d'image sous les yeux.
Non, bah écoute, changement de vélo, c'était prévu et ça s'est bien réalisé. Tu vas le voir revenir d'ici peu. Là, il est à hauteur de l'église du village et il va revenir tranquillement sur les deux hommes de tête.
Voilà, ça fait deux fois qu'il est victime de petits problèmes techniques, mon cher Jérôme, ce Wout Van Aert là.
Oui, dans la première difficulté du jour, en voulant mettre le petit plateau, il a déraillé. Alors il a commencé à remettre sa chaîne tout seul avant qu'un mécanicien de la voiture neutre vienne l'aider. Et je pense que voilà, le passage de son gros plateau, petit plateau, devait pas être terrible. Donc il a préféré changer de vélo. Les mécaniciens vont s'occuper de ça au bord de la route. Et quand tout sera revenu dans l'ordre, peut-être qu'il rechangera une deuxième fois de vélo si vraiment ils se sentent plus à l'aise avec son premier vélo.
L'avantage avec Wout Van Aert, c'est qu'on peut pas se tromper de vélo parce que il y en a deux. Ce sont des vélos jaunes, évidemment aux couleurs du leader du Tour de France.
Ou alors pas complètement, l'avant de leur vélo sont tous jaunes, hein, à tous les coureurs ils sont jaunes. Mais lui,
je croyais qu'il était spécifique pour Wout Van Aert.
Mais lui,
d'accord,
sur son premier vélo qui vient de changer, là où t'as raison, c'est que normalement il a une guidoline jaune. Ça, c'est vraiment en rapport à son maillot jaune.
Et le cadre est jaune sur
ouais, juste l'avant, juste la fourche avant. Qui est jaune. Et puis après, bon, c'est bien de changer de vélo avec Wout Van Aert, ça pose pas de problème. Il peut sauter du vélo, il peut le mettre sur l'épaule, le mettre sur la voiture s'il veut, il descend l'autre, il saute sur son vélo et repart. Il a l'habitude en cyclocross.
Évidemment, quel coureur, quel coursier incroyable, Cyril. Est-ce que toi aussi, comme Marc Madiot,
il pourrait nous faire une fraude comme dans le Mont Ventoux
Mais lui, je pense qu'il
aucun problème, il courrait
avant les coureurs.
À mon avis, il doublerait tout le monde. Déjà que Froome, il a doublé tout le monde sans. Sans doubler personne.
En même temps, dans le Ventoux, tu vas presque plus vite en courant qu'à vélo, non ?
Qu'est-ce que t'as fait d'habitude ?
Presque. Je pense que j'allais plus vite en courant qu'à vélo, c'est clair.
Très bien. Donc, alors, Arnaud, on t'a coupé la chic tout à l'heure, lorsque Wout van Aert donc, victime d'un petit problème mécanique. Donc, tu disais, ouais, il fait pas très chaud. Pourtant, ici, à Longwy, tout va bien. Hein, il fait super bon dans notre petit camion. On va venir nous rejoindre.
Écoute, ça augmente tout doucement. Pour vous dire quand même que Wout van Aert du coup est entré en un éclair sur le groupe échappé, donc avec ses deux compagnons d'échappée. Il a repris les devants d'ailleurs immédiatement. Oui, la température là qui est montée à 22 degrés, mais c'est vrai que tout à l'heure avec le vent, la route était vraiment très très exposée au vent. Il faisait 18 degrés, c'était couvert, c'était une ambiance un petit peu humide. Voilà, on a vraiment ressenti le besoin quand même de mettre les KW sur la moto, et j'imagine que sur le vélo on ne devait pas avoir non plus très très chaud, mais effectivement là ça commence à s'améliorer un petit peu. Le soleil, tu l'as dit, qui repointe le bout de son nez, 22 degrés désormais au thermomètre, donc on va aller vers la chaleur. Mais c'est vrai aussi que on prend volontiers un peu de fraîcheur, parce que quand on a l'expérience de la canicule sur la route du Tour, c'est pas très très agréable les 40 degrés, donc on préfère quand même un 20-22 degrés, hein. Il y a pas photo.
Oui, mais je crois que tu vas pas avoir le choix dans les jours qui viennent, hein, parce que plus on va avancer vers le sud et plus les températures vont monter. On nous annonce une nouvelle canicule la semaine prochaine aux alentours du week-end du 14 juillet, et ça va être très dur pour les suiveurs et surtout évidemment pour les coureurs de ce Tour de France. Des nouvelles de Primoz Roglic, l'un des co-leaders de la formation Jumbo, l'est-il encore aujourd'hui? Ça, c'est une autre question. Victime donc hier d'une chute, il s'est démis l'épaule, se l'est remis toute seule cette épaule, et là on vient de le voir à l'arrière dans le peloton, Pierre-Yves, en train de remonter les bidons. Ça veut dire qu'il est désormais porteur de bidons.
C'est un Grégario. Voilà, il a changé de statut. Mais c'est vrai qu'on peut revenir déjà sur cette petite scène d'hier, puisqu'on a vu la photo de Primoz Roglic empruntant d'abord un fauteuil, parce que ça lui est déjà arrivé en fait de se démettre l'épaule, donc il sait comment faire. Il a emprunté un fauteuil, il s'est assis, et puis il a pris son genou pour refaire un peu le geste pour déplacer le. Voilà, Christophe, c'est comme ça. Voilà, tu prends ton genou avec les deux mains et tu tires bien fort, et ça te remet l'épaule en place. C'est quand même assez impressionnant. Faut être costaud pour faire ça.
Faut avoir le courage de le faire quand même. Il a dit qu'il avait l'habitude. Après, j'aimerais bien qu'on revienne sur les circonstances de la chute, parce qu'on en apprend un petit peu plus. On avait cette botte de paille qui était au milieu de la route, et on s'est dit, purée, mais comment les spectateurs ou les policiers à côté ont pas pu tirer cette botte de paille? En fait, c'est une moto, alors apparemment avec la caméra dessus, une moto télévision qui, en passant, a coupé un peu trop le rond-point, donc juste devant les pelotons, juste devant les premiers coureurs du peloton, et elle a touché la botte de paille, peut-être avec les pieds ou la sacoche, je sais pas, et juste avant que le peloton passe, ça a jeté la botte de paille sur la route, et Kuhn, qui était à ce moment-là premier du peloton, est passé limite, les deux, trois d'après aussi limite, et Caleb Ewan lui se l'est pris de plein fouet, et Roglic avec lui, quoi. Donc ça, c'était et on a vu une photo où Roglic, vraiment, il passe par-dessus son vélo, et l'épaule en premier qui vient taper le sol, c'est là où il se déboîte son épaule.
Vraiment une nouvelle preuve de la guigne, ou alors du manque d'adresse sur le vélo de Primoz Roglic. Cyril, c'est vrai que ça lui arrive souvent, trop souvent, pour ce garçon pétri de qualité, un gros cœur, une grosse machine pour faire du vélo, mais qui a du mal à tenir sur son vélo l'espace de 3 semaines.
Alors là, sur cette chute-là, je le dédouane totalement.
D'accord. C'est pas de sa faute.
Totalement, puisque je crois que le premier coureur qui touche, c'est Caleb Ewan. Et n'oublions pas, on est à la sortie d'un rond-point. Il n'y a aucune issue possible. Donc à partir du moment où Caleb Ewan tombe, les coureurs qui sont immédiatement dans son sillage, et c'était dans les premières positions, tu ne peux pas l'éviter. Sur ce coup-là, il n'y est pour rien.
D'accord, ok. Donc, mais est-ce qu'un Van Der Poel, un Alaphilippe, aurait pu éviter la chute? Ou alors
tout le monde
y passait.
Personne ne pouvait l'éviter. Et puis, rappelons-nous que Caleb Ewan, ce n'est pas le plus maladroit du peloton.
Ouais, n'importe quel coureur à la place de Roglic était par terre de la même manière. Alors avec les mêmes conséquences, ça on ne sait pas, mais en tout cas, il était par terre aussi. Là, on peut souligner quand même, c'est quand même un sacré guerrier, parce qu'il faut déjà se remettre l'épaule en place tout seul, il faut faire terminer après tous les secteurs pavés qu'il y a, et puis il les a terminés à fond. Il a quand même essayé de limiter les écarts finalement, avec une épaule pas en bon état. Et là, il repart aujourd'hui, il apporte des bidons, c'est quand même un coureur exceptionnel, ce Primoz Roglic.
Alors moi j'ai connu non pas un coureur mais une concurrente, Marilyn Salvetta, qui avait le même problème et qui se la remettait régulièrement.
D'accord.
Donc non, c'est vrai qu'elle était, elle était médecin.
Elle est docteur de formation, ouais, c'est ça.
Elle est médecin. Elle est docteur. Je ne sais pas, j'étais pas à sa place, mais à mon avis, ça va pas être très agréable non plus, parce que si vous la déboîtez, ça veut dire que vous avez une contrainte sur l'épaule qui fait que. Et après, faut remettre tout le monde, tout ça en place. Mais apparemment, ça se fait bien. Ouais. Bon, enfin, je vais pas essayer.
On fait pas comme dans les westerns, on mord pas un morceau de bois ou on boit pas un cugnole avant de faire ça.
Non.
C'est pas comme retirer une balle de la peau quoi dans les Whistler.
Ouais, oh là là, putain.
Bon, d'accord, ok. Enfin, ça doit pas faire du bien quand même.
Je pense pas, mais bon, Marilyn, je l'ai vu faire. Bon, ça posait pas de problème particulier. Bon, mais les femmes sont plus résistantes que les hommes.
Ah ouais, elles sont moins douillettes que nous, ça c'est sûr. 14h34, on va justement. Ah oui, Pierre, tu voulais dire un truc.
Mais non, mais parce que c'est vrai que Jérôme me signale, lui qui connaît très bien les produits ici, qu'on est au pays du Kirsch. C'est vraiment la spécialité suisse. Et le fameux Kirsch, qui lui est dans le peloton, vient d'abandonner. Donc voilà, c'est un peu anecdotique, mais pas pour lui. Donc voilà, c'est une info course avec une info voilà, alcoolisée de la part de Jérôme.
Le Kirsch, c'est quoi? C'est de l'alcool de cerise, c'est ça?
C'est ça, exactement, ouais. Oui. Tu connais.
Bah, pas semblant.
Je peux pas connaître, c'est incroyable ça. Dès qu'il y a du monde, il fait son timide.
Timide. 14h34, on va revenir sur cette. Ah, mais non, mais vous levez le doigt.
Il peut pas envoyer la
non, je voudrais signaler que les lâchés qui étaient à plus de 5 minutes tout à l'heure sont en train de revenir dans le peloton.
Donc le peloton, il va modérément.
Moins vite que tout à l'heure.
Ok. On a le droit? Personne n'a besoin de lever la main? Jérôme? Non? Arnaud, tout va bien? Ok. Précédemment dans le tour, c'était donc hier sur les pavés du Nord avec cette étape incroyable.
Précédemment dans l'intégral tour sur RMC.
2 minutes 42 d'avance pour les 6 hommes de tête. Un Français, Alexis Goujard. Chute du maillot jaune, justement. Chute du maillot jaune, Arnaud, à l'arrière.
Plus de peur que de mal à plus.
Il a failli chuter à nouveau avec un écart d'une voiture. C'est pas sa journée à Wout van Aert. 75 km à parcourir. Adrien Petit qui donne le la pour ce premier secteur pavé. Mathieu Van Der Poel a été lâché. Wout van Aert également est distancé. Thibaut Pinot est distancé également. Oh, les jumbos sont partout à courir. Ça court dans tous les sens. Attention, il y a des vélos qui traversent. C'est la panique du côté du jumbo actuellement. Au moment où Poggi est peut-être en train d'écraser le tour.
Ils sont en train de partir. Stuyven et Pogacar derrière, ils n'arrivent pas à suivre. Attention, hein, il va peut-être gagner du temps.
2,40 de retard pour Roglic. C'est le dernier temps qui nous est donné à l'instant. Donc ça veut dire 1 minute 40 sur Pogacar. Paulès qui attaque. Alors qu'on va passer dans un instant sous la flamme rouge du dernier kilomètre.
Taco Van Aert, tout en puissance. Simon Clark qui accélère, qui ouvre la bouche sur la gauche. Il ne peut pas. Oh, c'est très serré. C'est très serré. Je vais mettre une pièce sur Simon Clark.
Stuyven et Pogacar qui donnent tout ce qu'ils ont dans le moteur.
Et derrière, on accélère pour ne pas perdre trop de temps sur Pogacar avec. Les coureurs de l'équipe Alpecin, il n'y a pas grand chose hein, finalement. Il y a 13 secondes, je pense. Primoz Roglic lui passe sous la flamme rouge. Quel gros coup de bambou.
Wout van Aert conserve son maillot jaune. Il conserve son maillot jaune pour 13 secondes.
RMC, intégral tour.
Incroyable étape sur les pavés. C'est vrai que tout le monde l'avait coché sur son petit livre de route, cette étape entre Lille et Wallers. On n'a pas été déçus. Il faut dire que là, on n'était pas dépendant des conditions climatiques. On avait beaucoup espéré le vent dans le bon sens sur le pont du Grand Belt Danemark lors des premiers jours de course. Il n'avait pas été dans le bon sens et pas suffisant ce vent. Mais là, les pavés, Cyril, ils sont là. Hein, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, ils sont toujours là et il faut se les fader.
Oui, c'est vrai, on s'est plaint, et même les coureurs d'ailleurs, eux ne se sont pas plaints, bien au contraire, étaient contents qu'on ait plutôt un vent défavorable là-bas sur notre périple danois. Et puis quand vous arrivez sur les pavés, bien vous pouvez faire tout ce que vous voulez, enlever le vent, enlever la pluie, balayer les pavés, il faut quand même les passer. Quand on passe les pavés, bien, il se passe toujours quelque chose, parce que les pavés, c'est un exercice différent de ce que les coureurs ont l'habitude de faire. Il y a bien sûr de grands spécialistes comme les Flamands ou les Néerlandais, mais, ou quelques Français, Marc Madiot ou Gilbert Duclos-Lassalle par exemple, mais c'est tellement difficile de rester toujours sur la bonne trajectoire avec un équilibre parfait. C'est tellement difficile que c'est même totalement impossible, et donc à certains moments il va y avoir des accrochages, des chutes, des crevaisons, des problèmes, parce que comme ça secoue énormément, des problèmes mécaniques, et ce qui fait qu'au bout de quelques temps, eh bien, le peloton est totalement explosé.
Et ça a été le cas donc hier dans cette étape qui a fait des dégâts avec, on en parlait il y a quelques instants, Primoz Roglic, qui a donc pris un sacré éclat. Il est ce matin 44e au classement général à 2 minutes 36 de son coéquipier Wout van Aert. Et puis il y en a eu d'autres, Pierre-Yves, notamment le leader de la formation AG2R Citroën, notre ami Ben O'Connor, l'Australien.
Ben O'Connor, qui a été d'ailleurs le premier à être piégé sur ces pavés et qui a obligé toute son équipe à bosser sérieusement. Derrière, ça a été vraiment compliqué pour cette équipe AG2R qui aurait préféré être aux avant-postes. Résultat, eh bien, Ben O'Connor a forcément perdu un petit peu de temps dans cette affaire. Les derniers sont arrivés à 43 minutes hier, enfin au classement général. 43 minutes pour Anthony Turgis. Il n'était pas à 43 minutes hier, mais il avait perdu du temps auparavant sur chute. Mais voilà, ça a été une étape qui a fait beaucoup, beaucoup de mal hier sur les pavés, comme on pouvait s'en douter. Et avec cette poussière aussi qui a particulièrement gêné les coureurs pendant toute la durée de l'étape.
Alors, c'est dur les pavés, Jérôme, sur une étape du Tour de France. Toi, tu n'as pas fait Paris-Roubaix, mais tu as fait des étapes du Tour sur les pavés. Est-ce qu'on se ressent encore le lendemain d'une telle étape des efforts consentis hier?
Bien sûr, hein, ça c'est des étapes qui laissent des traces, apparemment pas Van Aert, mais c'est un spécialiste des pavés. Mais on a vu, hein, la course, elle a vraiment été à bloc quasiment du début à la fin, entre la tension, les chutes qu'il y a eu, Van Aert notamment, avant les secteurs pavés, et ça roule très très vite sur les pavés. Donc bien sûr qu'on ressent encore la fatigue les jours suivants, mais on a l'impression que cette étape, enfin c'est pas une impression d'ailleurs, cette étape elle faisait peur complètement à tout le monde, et c'est peut-être ça qui a un peu bloqué la course, parce qu'on a vraiment senti énormément de soulagement chez les leaders. On a entendu David Godu notamment qui finalement a pas perdu de temps et a dit qu'il était soulagé après cette étape. Et aujourd'hui, voilà, l'étape est passée, on a eu un feu d'artifice au départ, une bagarre qui a duré plus d'une heure et demie. Donc voilà, toutes les équipes, tous les leaders, etc. étaient un peu frileux entre guillemets au départ, voulaient pas perdre trop d'énergie jusqu'à cette étape de pavé. On a l'impression que maintenant l'étape de pavé est derrière, on n'en parle plus, et les coureurs vont à la bagarre maintenant et vont y aller tous les jours.
Exactement, il y avait deux étapes qui faisaient très peur à tout le peloton dans cette première semaine de course. Il y avait l'étape évidemment avec ce grand pont, le grand belt, et donc l'étape des pavés. Arnaud, tu voulais nous dire un petit truc, je crois.
Non. Non, j'étais en train d'observer parce qu'en fait, Wout van Aert a appelé sa voiture de directeur sportif. Voilà, il y a une petite discussion. La voiture de directeur sportif s'est arrêtée du côté de Jumbo-Visma. On a enlevé le vélo, le fameux vélo du toit. Donc j'imagine qu'il va y avoir à nouveau un changement de vélo dans les quelques kilomètres à venir pour Wout van Aert.
Ok, 14h41, un petit top course avec Pierre-Yves, et on s'interrompt, on va chercher la musette. Oui, c'est l'heure, c'est bientôt l'heure du goûter. Le top course, tout de suite.
Les coureurs qui ont passé le cap des 100 km à parcourir, 98,5 exactement, 3 minutes 43 d'avance pour les trois hommes de tête. Wout van Aert, on le disait à l'instant, est dans ce groupe de 3 en compagnie de Quinn Simmons et de Jakob Fuglsang, le Suisse. Jakob Fuglsang qui ne s'est jamais imposé encore sur le Tour de France, né en Suisse. Jakob Fuglsang.
Danois né en Suisse.
Oui, il me semble qu'il est né en Suisse. Jakob Fuglsang, c'est un peu comme.
À Genève, il est né.
Oui, comme Tony Rominger qui, lui, est né au Danemark, mais qui est suisse. Voilà, c'est toujours un peu compliqué avec les Suisses. Je dis pas ça parce qu'il y en a un pas très loin, mais vraiment, ils font tout à leur sauce.
Pas complètement.
C'est très bizarre.
T'es pas complètement suisse, hein?
Pas encore. Laissez-moi un peu de temps. Je vis en Suisse, voilà. Mais ils donnent pas les nationalité suisse comme ça.
Les enfants le seront,
oui. Triple nationalité.
Incroyable. Allez, 14h42, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Intégral Tour. Il reste 97 km à parcourir. Et ça va très vite, hein, ça va très vite. 3 minutes 40 d'avance. Donc pour les trois hommes de tête, à tout de suite.
RMC Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
14h45 dans l'intégral Tour pour cette sixième étape de la Grande Boucle à 95 km de l'arrivée. Toujours trois hommes en tête. Leur avance a tendance à quelque peu baisser. 3 minutes 25 au dernier pointage. Elle était de 3:40 il y a de cela quelques instants. 14h45, c'est l'heure de jouer. Avec tout d'abord ce petit cadeau que je vous fais. Le premier, je dis bien le premier, qui appelle le 32-16, repart immédiatement avec un kit du film L'Équipier, un film événement qui parle d'un équipier qui rêve du maillot jaune sur le Tour de France 98. On y était, Cyril, sur le Tour de France 98. Pas comme coureur, évidemment, comme suiveur. Tu t'en rappelles, on avait vécu un drôle de tour, hein, quand même.
Le Tour 98.
Oui, il s'est rien passé de spécial.
Il s'est rien passé de spécial, non.
C'est parti
d'Irlande, c'est tout. Ouais, c'est un départ d'Irlande.
Départ d'Irlande, magnifique. Ouais, ouais. Le retour sur le bateau, les policiers. À l'arrivée du bateau. Le tour des commissariats, des casernes de gendarmerie, des hôpitaux.
Mais quel était l'événement qui s'est déroulé le jour du départ du tour?
La finale de la Coupe du Monde.
Nous avions vu
la finale de la Coupe du Monde dans une distillerie de whisky à Dublin, tous les deux. Est-ce que tu te sens bien?
Ah, mais très bien, enfin jusqu'à une certaine heure.
Ouais, après tu étais resté là-bas.
Bien du whisky, mais pas du match, par contre.
Voilà, donc si vous voulez vous rappeler de ce Tour de France 98, vous appelez le 32-16, je me dis que c'est déjà fait, et vous repartez donc avec un sac à dos, une gourde et deux places pour découvrir le film au cinéma qui est sorti mercredi dernier. Donc le plus rapide au 32-16 pour décrocher le kit du film L'Équipier. Voilà pour le jeu, tout de suite. Oui, il lève le doigt. Mais, messieurs, levez le doigt.
Non, mais c'est parce que.
Ne vous gênez pas.
Je voulais juste passer un petit coucou à un certain Maxime Cogny qui a fait le tour avec nous dans l'équipe BFM il y a quelques années et qui m'envoie un texto à l'instant et qui me dit: première fois que j'écoute, et hop, vous parlez d'alcool. Et le temps qu'on parle, on a encore parlé d'alcool. Donc voilà, c'est pas bien, hein, avec modération.
Ouais, ça nous colle aux fesses, hein,
c'est cette réputation.
Maxime qui a quitté le vélo pour la voile, où là aussi ça envoie quand même. Toi, c'est d'ailleurs tes deux sports préférés, Pierre.
C'est pour l'aspect vitesse.
Très bien. Les paris tout de suite.
Les paris RMC.
Avec Johan Bredov. Comment ça va, mon petit Johan?
Eh ben, ça va très bien. Et vous, messieurs, comment ça va?
On est bien.
Très, très bien. La course est là, c'est formidable.
On a vu une belle course jusqu'à présent. Et bien malin, celui qui pourra pronostiquer le vainqueur du jour.
Ouais.
Alors là, cette fois-ci, tu as les cotes quand même. Parce que hier, t'étais un peu à la bourre avec tes cotes quand même.
Oui, quand même, là, je les ai, l'étape a commencé.
Est-ce qu'on était bien d'ailleurs? Est-ce qu'on était est-ce qu'on a donné les favoris?
Je regarde ce que vous avez donné. Michael Matthews, il est bien là. Il est coté à 9. Troisième favori derrière Wout Van Aert. Tiens, c'est le choix d'Arnaud Souk, il me semble. Et Tadej Pogacar qui est coté à 5. Wout Van Aert, c'est 3,50. Ensuite, on avait dit quoi? On avait dit Michael Woods. Michael Woods, il est à 50. Là, c'est une belle cote donc pour Jérôme Coppel. Et Peter Sagan qui est bien là, côté à 25. Vlasov aussi à 25. Et je regarde, et voilà, c'était ce qu'on avait dit. On est pas mal. Il nous en manque quelques-uns, comme Christophe Laporte, côté à 12.
Te demander.
Ouais, il est côté à 12, c'est pas mal. Jakob Fuglsang qui est dans l'échappée, côté à 15. Et Dylan Teuns, t'en avais parlé, je crois, Jérôme. Lui aussi, il est côté à 15.
Alors, vous savez que vous avez le droit de changer en perdant quelques points, évidemment. C'est-à-dire que les gains ne seront pas aussi importants si vous changez votre fusil d'épaule. Est-ce que vous gardez les pronostics faits hier, Cyril?
Bien, moi, je crois que je vais quand même changer. Et pourquoi pas Christophe Laporte, qui se balade aussi un petit peu à l'image de son maillot jaune, de son équipier maillot jaune.
Ok. Donc, tu avais donné qui hier?
Pedersen, mais il a fait trop d'efforts en début d'étape.
Non, Pogacar.
Oui. Pogacar, mais là, oui. Tadej Pogacar, t'avais donné, il est coté à 4,50 et Christophe Laporte, il est à 12. C'est pas mal.
Donc, on a bien dit que quand on donne un deuxième coureur, les gains sont divisés par deux quand même. Hein.
Exactement, bien sûr. Okay. Ouais. Donc, une cote à 6 du coup pour Laporte.
Bon, ça serait pas mal quand même. Jérôme.
Non, j'hésitais à changer, mais je vais quand même garder Michael Woods, même si j'ai eu son entraîneur hier au téléphone qui m'a dit que ça sera compliqué, mais ouais, je pense qu'il bluffe. Il bluffe, donc je vais garder Michael Woods.
Tu gardes Michael Woods. Est-ce que Arnaud garde Wout Van Aert?
Écoute, oui, je vais garder Wout Van Aert, tant qu'à faire. J'aurais tort, non? Mais il doit avoir une cote un peu plus intéressante maintenant qu'il est dans l'échappée, non?
Il est à 4. Voilà, ça n'a pas bougé, Arnaud.
Toujours?
Ouais,
il est favori, échappé, peloton, sprint, chrono, il est toujours une petite cote.
Ouais, mais enfin, à un moment, le peloton est en train de revenir quand même là. Hein.
Ouais, non, mais ça va pas aller au bout.
Moi, je pense pas que ça aille au bout.
Ça ira pas au bout.
Ouais, donc après, il peut repartir en échappé et lâcher tout le monde dans la dernière côte.
Faut peut-être pas. Là, on pourrait se poser des questions quand même.
Non.
Comme il change souvent de vélo.
On ne se pose jamais de questions sur le Tour de France. Pierre-Yves.
Moi, je garde mon pronostic puisque ça va pas aller au bout. Donc, Michael Matthews.
Michael Matthews pour toi. Et moi, je vais garder mon pronostic. Peter Sagan. on sait jamais, sur un malentendu, il peut peut-être nous faire un truc dans la dernière ascension. On rappelle qu'il a gagné ici la dernière fois que l'étape s'est achevée à Longwy.
Devant Michael Matthews.
Il n'y avait pas la dernière côte de troisième catégorie à 5 km de l'arrivée aussi ce jour-là.
Oui, à 12%.
Ça peut changer. C'est ça, mais normalement, Peter Sagan, du Grand Sagan, il passe. Hein,
ouais, mais est-il le Grand Sagan? Il était pas mal en début de tour. Hier, il nous a un peu déçus.
Mais là, il est tombé hier.
Ouais.
Il a
c'est
chuté
vrai.
Et quand il avait gagné l'étape, hein, j'ai revisionné l'étape hier soir. Il avait viré le dernier virage. Ça sera le même à 600 mètres de la ligne en troisième position. Donc, il faut quand même être bien placé. Pas forcément viré en première position, mais dans les 10 premiers si on veut gagner l'étape. Donc, tous les coureurs qui seront plus loin que la 10e place à ce dernier virage pourront pas gagner l'étape.
Vous noterez que Jérôme revisionne les étapes le soir.
Ouais.
Hein, c'est beau, hein.
Ouais. Non, un grand pro.
Ah oui, non. Non,
toi, il y en a qui travaillent.
Il fait
dans
le métier, il boit rien du tout. Une salade, pas de dessert, ouais, ça change des autres. Ah, évidemment.
Ça change des autres.
Il a quand même pris un dessert hier.
Non, rien du tout.
Ah, c'est celui que tu avais pris pour leur donner à.
Il doit être amoureux.
À Christophe.
Il doit être amoureux.
Je vais être père de famille, je dois être sérieux maintenant.
Je vais te faire un body summer, c'est ça. Sur la plage, ça va être magnifique. Alors que, bon, pour d'autres, ça va être plus compliqué.
Oui, alors. Après ce petit dérapage,
oui,
on va revenir à la course et c'est la raison pour laquelle je vous dis que ça n'ira pas au bout. C'est qu'actuellement, il y a 4 équipes qui roulent, Alpecin, EF et Bora. C'est-à-dire que des équipes de sprinter, mais aussi pour le classement général. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser Fuglsang et Van Aert aller au bout comme ça. Et c'est d'ailleurs très bien parce qu'ils vont les faire bosser. Demain, on arrive là-bas à la super planche. Entre les pavés et l'étape d'aujourd'hui pour Van Aert, ça va peut-être être compliqué la montée.
Mais oui, mais peut-être que son Tour de France s'achève ce soir, Wout van Aert, enfin dans son rôle de leader. Après, il sera peut-être équipier comme il l'a été hier. Enfin, je sais pas. Non, il y aura
je pense
peut-être
que
des
demain
étapes
dans la planche
au sprint.
Non, mais même demain dans la planche, ça va être une rampe de lancement aussi avec Christophe Laporte. Hein. On va aller voir à l'avant, c'est évident.
Ouais.
Bon, essayer de faire péter les équipiers de Pogacar, notamment qui n'ont pas l'air vraiment au mieux.
Ouais. On verra. Bon, en tout cas, ce garçon nous surprend jour après jour. Fuglsang, il était combien au classement général?
Bah, il est bien, hein, Fuglsang.
21e à 1 minute 20.
Oui.
Ah oui,
c'est lui, il peut faire aussi une belle opération.
Lui, c'est un client quand même. Peut-être pas pour une course de 3 semaines, mais Fuglsang, il a quand même
qu'est-ce qu'il est allé faire dans cette galère?
Bah, oui, c'est ça. Ça, mais à force de flinguer de toutes parts en début d'étape, il s'est retrouvé dans le bon coup. Il s'y attendait peut-être pas. 14h53, la moto RMC avec Arnaud, qui est donc toujours à l'avant de la course, en compagnie des 3 hommes de tête. Arnaud, merci Johan, au fait.
Merci à vous, messieurs.
RMC, Intégral Tour.
Arnaud.
Et oui, et puisqu'on parle de maillot jaune, tiens, il y avait un ancien maillot jaune et même 2 anciens maillots jaunes de prestige ce matin au village départ. On est parti de Belgique et le cannibale Eddy Merckx est venu évidemment rendre visite au Tour de France. On l'a vu notamment aux côtés de Bernard Thévenet. Et d'ailleurs, alors peut-être que certains d'entre vous la connaissent, mais c'est Bernard Thévenet qui a raconté cette anecdote assez rigolote quand il a chippé en 1975 pour la première fois à Pralou le maillot jaune à Eddy Merckx. Il expliquait que la nuit suivante, il s'était réveillé pendant la nuit, il avait vu le maillot jaune dans sa chambre et il s'était dit, mais tiens, pourquoi Eddy Merckx est venu poser son maillot jaune dans ma chambre? Et il a rapidement compris, en fait, enfin, il s'est rapidement souvenu que c'était bien lui qui était le détenteur pour la première fois de ce maillot jaune. Donc voilà, un moment un petit peu rigolo, ça nous a fait sourire ce matin au village départ. Et toujours aussi pimpant Eddy Merckx, voilà, qui a répondu à quelques questions, qui a notamment parlé de Wout van Aert, hein, qui lui aussi salue évidemment le côté absolument extraordinaire de ce coureur qui en plus est son compatriote. C'était un moment assez sympa ce matin au village départ avec Eddy Merckx.
Et on l'écoutera dans quelques minutes d'ailleurs, Eddy Merckx, puisque Julien Richard vient d'arriver. Il va nous faire sa musette justement sur l'ambiance ce matin à Binche, donc au pays de Wanty, au pays d'Eddy Merckx et de tous les coureurs badge de ce peloton du Tour de France. Eddy Merckx qui a pas mal de successeurs cannibales, hein, finalement dans le peloton. Wout van Aert, Pogacar, il y a Remco Evenepoel qui un jour va peut-être être aligné au départ du Tour de France, sait-on jamais.
Ben oui, pourquoi pas. C'est une nouvelle race d'habitants sur la Terre.
Les cannibales.
Il ne faut pas trop lui dire ça. Oui. Il n'aime pas trop. Hein. Ouais. Il dit qu'il faut quand même qu'il gagne des choses d'abord. Avant d'être...
Remco, oui. Mais Remco, ouais. Van Aert et surtout Pogacar.
Ouais, il avait dit ça à propos de Remco.
Voilà. Remco, ben oui, en plus, parce que c'est un compatriote à lui.
Ouais, il n'aime pas. Hein.
Il n'aime pas. Ben non, c'est comme quand on dit qu'il y a deux meilleurs sprinteurs aujourd'hui que Cyril Guimard. Ça l'énerve.
C'est ça.
Ça l'énerve, notre petit Napoléon.
Ouais, j'aimerais bien.
T'aimerais bien qu'il y en ait ? Bah oui, bien
sûr. Oui.
Successeur à Guimard. Il y en a eu quelques-uns quand même depuis que tu as arrêté le vélo, heureusement. Notamment Arnaud Démare, Nasser Boigny, Frédéric Moncassin. Voilà, il y a quand même eu de beaux sprinteurs français ces dernières années.
Oui, bien sûr. Oui, mais pas du niveau
pas de ce. Pas de son niveau, tu veux dire.
Non, pas du niveau de ce qu'on a aujourd'hui. Non, il faut que j'entretienne quand même
la légende
d'Alain Delon.
Alain Delon.
Je vous remercie.
11h59, vous remercie, exactement. On laisse passer les infos de 15h, on revient après. On a plein de rubriques encore. On a la carte postale d'Arnaud, on aura la photo finish de Pierre-Yves. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? Le Dédé, on l'a vu hier. Il a régalé tout le monde quand même. Son équipe, il a 50 personnes et c'est lui qui paye pour tout le monde.
C'est lui qui a décoré nos voitures ce matin aussi.
Et les départements de France, ça envoie quand même à le soir au dîner. Ah oui, oui, ah oui, ça rigole pas. C'est avec nos impôts, tout ça. Allez, à tout de suite, juste après les infos de 15h.
RMC, Intégral Tour.